Normand Bergeon est de retour avec nous. Bonjour, Normand.
Oui, bonjour.
Bienvenue ou re-bienvenue. Alors, on va, pour ces deux dernières émissions de la saison, vous allez nous présenter une chronique qui s'appelle Assurément sceptique. En fait, on va survoler quelques aspects du scepticisme.
Exactement.
Oui, et de son histoire.
Oui, quelques aspects du scepticisme et de son histoire. Le scepticisme, c'est très vaste. Ça va être un petit peu impressionniste comme survol, mais je vais essayer de donner une idée de ce qu'a été le scepticisme en Occident, de la place que ça a joué, et puis faire quelques portraits de sceptiques éminents, parce qu'il y en a quand même eu quelques-uns.
Il y en a eu quelques-uns, oui.
Particulièrement importants.
Oui, ouais. Normalement, le scepticisme désigne différentes choses. De quoi, au juste, est-ce qu'il sera de quoi il sera question?
Voilà, c'est ça. C'est important de comprendre ce dont on va parler, c'est le scepticisme philosophique. Hein. Des fois, on dit dans la vie courante, quelqu'un, c'est un sceptique, ça veut dire, bon, il doute un peu. Où il prend le contraire de ce qu'on... C'est ça, oui. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on soit en Afghanistan? Je suis sceptique. Je pense le contraire. Mais ici, ce dont il va être question, c'est le scepticisme philosophique. Alors, on va voir que ça prend différentes formes. Ça peut être un scepticisme qui porte sur tout globalement. Disons, on peut rien connaître. Ou ça peut être un scepticisme qui porte sur certains domaines. Par exemple, il y a des gens qui vont être sceptiques en matière de moralité. On peut pas décider de manière rigoureuse ce qui est bien ou ce qui est mal. Il y a des gens qui vont être sceptiques en matière d'esthétique. Ils vont dire ce qui est beau ou ce qui est laid, ça reste controversé, puis on peut pas en décider. Alors, le scepticisme peut être local ou il peut être global, comme ça, et il prend différentes formes dans l'histoire de la pensée occidentale, on va voir.
Oui, il y a eu Piron, est-ce qu'on peut le considérer comme le fondateur du scepticisme?
Effectivement, le début du... Tu sais, le scepticisme, en quelque sorte, ça apparaît en même temps que la philosophie. Tout le monde se rappelle Socrate qui disait « ce que je sais, c'est que je ne sais rien ».
Ça, c'était la sagesse selon Socrate.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, cette espèce d'attitude de doute, elle est présente dès le début, mais souvent, on fait remonter le scepticisme à Piron. Puis d'ailleurs, longtemps, dans l'histoire de la pensée occidentale, on va appeler les sceptiques des pyrrhoniens ou le pyrrhonisme pour désigner le scepticisme. Alors, c'est un gars assez particulier, Piron, parce que il a fait les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et il s'est rendu jusqu'en Asie. Et en Asie, il a rencontré des sages indiens. Et c'est ça qui va l'inspirer à fonder le scepticisme. Et pour comprendre quelque peu ce qu'il fait, Piron, il faut se rappeler que les philosophies de l'Antiquité prétendent connaître le monde et tirer de cette connaissance du monde une sagesse, une manière de vivre, une tranquillité de l'esprit. Et ce que Piron amène, c'est l'idée que c'est le désir de connaître qui engendre l'intranquillité. Et c'est neutraliser le désir de connaître qui va nous rendre heureux, qui va nous rendre tranquilles, qui va nous assurer la tranquillité de l'âme. Alors, c'est un peu particulier, mais ce que les sceptiques vont faire à partir de Piron, ça va être de tenter de neutraliser notre tentation de dire qu'on sait. Et pour ça, ils vont créer une espèce de manuel du sceptique que toute l'histoire de la pensée occidentale va retenir ensuite, où ils vont mettre en place ce qu'ils appellent des tropes. Des tropes, c'est des manières de neutraliser toute prétention de connaître. Et le plus souvent, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont dire, on pourrait dire telle chose, mais il y a un argument contraire aussi fort. Alors, comme il y a deux arguments possibles, on neutralise la volonté de connaître, et quand on a neutralisé ça, on devient calme, on devient heureux. C'est ça le pyrrhonisme.
Le pyrrhonisme. Mais est-ce que le sceptique ne se contredit pas que s'il dit savoir qu'on ne peut rien savoir, et puis ça ne doit pas être commode de vivre en prétendant ne rien pouvoir savoir du tout, pas même que l'eau bouillante brûle, par exemple, pour prendre un exemple? Je préfère le savoir, moi, personnellement.
C'est deux bonnes questions. La première, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là. C'est-à-dire, dans la mesure où le sceptique prétend savoir qui ne peut rien savoir, il se contredit. Et si on prétend défendre un scepticisme radical, global, plus personne ne fait ça aujourd'hui ou à peu près, ce genre de scepticisme-là s'autodétruit. Le scepticisme global à la Piron n'aura pas beaucoup de successeurs par la suite. Pour la deuxième question, effectivement, il y a un enjeu ici. Comment on vit si on prétend ne rien savoir?
Ben oui.
Regardez le brave Piron, des anecdotes qui le concernent. Vous savez, ces gens-là, leur vie est perdue dans la légende, mais il y a des anecdotes qui concernent Piron. Alors, par exemple, on raconte que marchant avec un de ses disciples, celui-là est tombé dans un ravin, est tombé dans l'eau, a manqué de se noyer. Ben, il a poursuivi son chemin, paraît-il, très tranquillement, comme si ça ne le dérangeait pas. On ne peut pas savoir si c'est mal la mort.
Sympathique, Piron. On voudrait l'avoir comme ami.
Et en même temps, une anecdote qui le concerne dit qu'une fois, il a fui devant un chien enragé, tu vois. Alors, lui-même n'était pas toujours capable de garder cette tranquillité de l'âme. Ce que les sceptiques vont dire, ce que les sceptiques en général vont dire, Piron et ses successeurs, c'est que on ne dit pas que... C'est-à-dire qu'on peut savoir que le miel, par exemple, nous apparaît doux. Mais on ne sait pas ce qu'est le miel en soi. Et quand il s'agit de mener notre vie quotidienne, on suit l'opinion commune. On prend l'opinion commune comme guide non philosophique de nos vies. Les gens, en général, trouvent le miel doux. Nous aussi, on accepte que le miel soit doux. Les chiens, en général, on les considère dangereux quand ils veulent nous mordre. On fait attention et on se tient à l'écart. Mais c'est une position pour la vie quotidienne. Voilà. Et ça, c'est le scepticisme ancien.
OK. Alors, Normand Baillargeon, le scepticisme change quelque peu de sens par la suite. Là, vous avez choisi de le montrer sur l'exemple d'un sceptique célèbre de la Renaissance, Montaigne. Parlons de Montaigne.
Oui, bien, ce Montaigne-là, vous voyez, c'est un homme qui naît en 1533, mort en 1592, fait des études en droit, pratique quelque peu le droit, puis autour de 1570, se retire dans son château, fait peindre des belles maximes sur les poutres d'une de ses pièces, s'installe là, puis commence à écrire. Et ce qu'il écrit, il appelle ça des essais. Il fonde le genre. Hein. Il essaie ses forces sur différents sujets, il papillonne d'un sujet à l'autre. C'est un auteur absolument admirable. C'est quelqu'un qui a écrit une langue absolument sublime et qui s'est dit sceptique lui-même. Le scepticisme de Montaigne fait l'objet de plusieurs débats. On se demande qu'est-ce qu'il défendait au juste. Ma position à moi, c'est qu'il inaugure le scepticisme moderne. C'est quelqu'un d'extrêmement important dans ce sens-là. Alors, auparavant, le sceptique débouchait sur le fait de pas juger, de prétendre qu'on peut rien savoir. Avec Montaigne, le scepticisme devient l'obligation de juger au mieux avec les données dont on dispose. Mmh. Et c'est pourquoi le scepticisme de Montaigne, il est actif, d'abord. Et c'est lui qui donne comme formule de son scepticisme, que sais-je? Vous savez, il y a une collection d'ouvrages très célèbres qui s'appelle comme
sûr.
Ça. Ben
oui.
Et ben, c'est la formule de Montaigne, que sais-je? Ça veut dire, regardons tout ce qui se propose à mon entendement et jugeons au mieux en partir de ce qu'on sait. Et si on ne peut pas juger, reconnaissons qu'on ne peut pas juger. C'est donc un scepticisme actif et qui débouche sur l'obligation de porter un jugement. Alors, Montaigne est extrêmement important ici en éducation parce qu'il demande que la formation intellectuelle des gens les amène à être à juger s'ils sont capables de le faire, qu'ils s'approprient les savoirs pour s'émanciper à partir d'eux. Donc, c'est quelqu'un d'important. Je dirais un autre aspect par lequel il est moderne, Montaigne, son scepticisme, c'est quelqu'un qui se moque aussi des pédants. C'est quelqu'un qui se moque des outres gonflés de suffisance. C'est quelqu'un qui, comme les sceptiques aujourd'hui, les sceptiques modernes, vous savez, ils prennent beaucoup de plaisir, les sceptiques moderne, à faire ce qu'on appelle du déboulonnage, c'est-à-dire à démonter les croyances ridicules que certaines personnes ont. Montaigne est tout à fait dans ce genre-là. Alors, il est plein d'humour. Hein. Il dit, j'en connais un qui est incapable de me dire qu'il a le cul galeux, s'il ne va pas tout de suite voir dans son dictionnaire ce que ça veut dire cul, ce que ça veut dire galeux. Alors, il se moque de lui comme ça. Ou alors, il dit, j'ai vu quelqu'un chez moi se moquer toujours d'un pédant en lui lançant des phrases creuses auxquelles l'autre répondait en pensant que c'était des vraies objections. Alors, cette attitude un peu ironique, amusante, elle est présente chez Montaigne et elle annonce déjà le scepticisme moderne. Et là, il s'agit de juger au mieux, puisque dans la vie, il va falloir juger.
Pour les philosophes modernes, la question du scepticisme se pose ensuite avec le problème de la possibilité de connaître le monde extérieur. Et ça nous vient de Descartes, non?
Oui. Le scepticisme, là, ici, on rentre dans un sujet pour lequel les gens, en général, disent que les philosophes sont véritablement flayés. C'est vrai que les philosophes sont véritablement flayés là-dessus, mais je vais vous dire honnêtement, ce que disent les physiciens contemporains du monde est extrêmement plus flayé que ce que je vais vous raconter. Mais Descartes, lui, il met la scène pour la manière dont la question du scepticisme va se poser dans la modernité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous donner un exemple concret de ça. Monsieur Bertrand.
Oui, monsieur Baillargeon.
Vous êtes devant moi en ce moment.
Oui, je suis là.
On se parle. Oui. Eh bien, en fait, c'est une illusion que vous avez.
Ah oui?
Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je vous demande de rester calme, s'il vous plaît.
Oui, je vais rester calme.
La nuit dernière, nous, et quand je dis nous, c'est nous sommes une espèce extraterrestre extrêmement avancée, sommes rentrés dans votre chambre la nuit,
pendant que
vous dormiez.
Uh-huh.
Nous avons pratiqué sur vous une opération durant laquelle nous avons retiré votre cerveau de votre boîte crânienne. On l'a installé dans une cuve. Mmh. On a branché des électrodes sur votre cerveau. On a branché ces électrodes à un ordinateur super puissant, dont vous n'avez même pas idée dans votre pauvre civilisation tellement arriérée. Et en ce moment, nous manipulons votre cerveau.
Mais c'est pour ça que j'avais manière... mal à la tête ce matin, Normand.
De telle manière que vous croyez être en face de moi dans votre studio, mais en fait, vous êtes un cerveau dans une cuve.
Ah bon, d'accord. ça pas inspiré de Matrix, ça?
Exactement. C'est cette expérience que raconte un philosophe contemporain, Hilary Putnam, a été une des sources d'inspiration du film de Matrix. Mmh. Et au fond, c'est ce que fait Descartes. Descartes se dit, je vais prendre tout ce que je pense savoir. Et à chaque fois que dans une des sources de cette connaissance que je prétends avoir, je peux avoir un doute, je peux entretenir un doute, je vais rejeter tout ce qui me provient de cette source de connaissance-là. Alors, il commence par dire « mes sens me donnent des informations sur le monde ». Mais on va être d'accord, des fois, nos sens nous trompent. On peut se tromper quand on évalue des distances, on peut se tromper quand on évalue des couleurs. Alors, Descartes dit « tout ce que mes sens me donnent, je le rejette ». Vous remarquez qu'avec ça, toutes les sciences viennent de foutre le camp, toutes les connaissances scientifiques supposées viennent d'être rejetées par-dessus bord. Il ajoute un deuxième argument. Parfois, je rêve et je crois que je suis en pleine réalité. C'est peut-être ce qui m'arrive en ce moment, un peu comme le cerveau dans une cuve.
Dans une cuve, oui.
Et donc, toutes les informations des sens viennent de foutre le camp. Qu'est-ce qui reste après ça? Mais Descartes, c'est un mathématicien extrêmement célèbre, éminent. Vous savez, le plan cartésien, ça vient de lui.
Donc,
c'est un grand mathématicien. Il reste les mathématiques. Eh bien là, il va même imaginer qu'il y a un malin génie qui s'amuse à le tromper constamment. Et quand il fait 2 plus 2 égale 4, c'est pas vraiment ça que ça fait. Mais le malin génie le trompe. Au total, il reste à peu près plus rien. Après, le doute et le scepticisme devient avec Descartes une épreuve par laquelle il faut passer et au terme de laquelle Descartes prétend aboutir à une certitude. Alors, il a rejeté les données des sens, il a rejeté les mathématiques, il a rejeté toutes les sources possibles de connaissances, mais remarquez, il en reste une, d'après lui, à laquelle c'est-à-dire, il reste une source de connaissances qui échappe à son doute absolument terrible et hyperbolique et qui veut tout arracher, c'est le fait qu'en ce moment, il est en train de douter. C'est le fait qu'en ce moment, il y a une activité cérébrale, en ce moment, il a une activité de pensée. D'où « je pense, donc je suis », la célèbre formule que Descartes annonce.
Il y a derrière l'humour philosophique, il y a une blague qui dit « c'est Descartes qui est au bar et le barman lui demande s'il veut un autre verre, il répond « je ne pense pas » et il disparaît.
C'est ça, exactement. Alors,
on va parler des philosophes, des empiristes anglo-saxons la semaine prochaine, Normand.
Voilà, c'est ça. Alors, Descartes a soulevé le problème du scepticisme, pense l'avoir vaincu, mais pour beaucoup de gens, cette solution-là est insatisfaisante parce qu'elle est trop coûteuse. Elle demande d'admettre des idées innées, elle demande d'admettre Dieu et elle fait trop peu la place aux données sensorielles qui sont quand même une des sources importantes de nos connaissances. C'est parce que j'ai vu l'eau gelée que je sais que l'eau gèle. C'est parce que j'ai vu le soleil se lever que je sais que le soleil se lève. Alors, à partir du moment où les empiristes anglo-saxons vont arriver, le scepticisme moderne va se mettre en place.
Mais on se revoit la semaine prochaine. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Normand, à bientôt.